RFJ Info.
12h15, le journal de Vincent Jacquat.
Bonjour, le théâtre du Jura franchit une étape symbolique et concrète. La pose de la première pierre est en cours du côté du TIC, là de Lémont. Michel Tens, coordinateur du projet, est notre invité. Des contrôles et la préférence indigène dans des secteurs à fort taux de chômage. L'application de l'initiative contre l'immigration de masse va coûter cher, mais la Confédération va donner un coup de pouce au canton. Le Japon, centre du monde de l'Ovalie dès la fin de la semaine. Le pays accueille la Coupe du monde de rugby. Les All Blacks restent grands favoris, mais la France a une carte à jouer. Le temps s'est rafraîchi mais reste agréable avec du soleil. Les températures ne dépasseront pas les 19 degrés. Le monde de la scène l'attend depuis des décennies, mais aujourd'hui, le théâtre du Jura est entré dans le concret. La pose de la première pierre se tient en ce moment sur le site du TIC, là de Lémont, en présence du gouvernement jurassien incorporé. L'édifice s'inscrit dans un vaste projet immobilier d'une surface de plus de 10 000 mètres carrés, le tout entre la route de Bâle et l'avenue de la gare. François Comte, vous êtes sur place en compagnie du coordinateur du projet du théâtre du Jura, Michel Tens.
Oui, Michel Tens, bonjour.
Bien le bonjour.
Alors enfin, c'est une étape importante, ce dossier du théâtre du Jura que les milieux culturels attendent depuis très longtemps. La pose de cette première pierre, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment hautement symbolique?
Justement, le fait que ce n'était plus un dossier ni un projet, mais une réalité. Aujourd'hui, on a posé symboliquement la première pierre, même si les jurassiennes et jurassiens se sont rendus compte depuis quelques mois que le chantier est énorme. D'ailleurs, on dit toujours que c'est le chantier du théâtre du Jura, mais il ne faut pas oublier que c'est le chantier du complexe immobilier, le TIC, qui comprend le théâtre du Jura. C'est donc évidemment un moment extraordinaire pour les jurassiennes et les jurassiens, parce que dans 24 mois, on leur donne rendez-vous ici pour faire la fête, vraiment, lors de l'inauguration du théâtre du Jura. Donc c'est un grand moment.
C'est le plus grand chantier de l'histoire du canton du Jura depuis sa création, alors hormis la Transjurane hein, évidemment, mais aussi dans cette symbolique de la première pierre, vous avez voulu glisser les noms de toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce projet. C'était important de souvenir qu'il y a eu beaucoup de monde impliqué dans ce projet.
Oui, on a pas mal réfléchi ces dernières semaines sur cet objet symbolique qu'on allait sceller dans le béton, et soudainement est apparue l'idée, et à l'évidence, le fait qu'il serait bien de mettre dans ce béton, donc ad vitam aeternam, de poser les fondations du théâtre du Jura en scellant les noms de celles et ceux qui, historiquement, en fait, ont donné du leur, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en réflexion technique, réflexion artistique, etc., etc., et qui ont amené, en fait, à faire mûrir l'idée du théâtre du Jura et celles et ceux qui, maintenant, la concrétisent. Alors, c'est effectivement 512 noms exactement qui sont scellés là-dedans. Je ne vais pas vous les réciter, mais en allant les rechercher, on s'est dit « Ah oui, tiens, il y a celui-ci, ah celle-là, ah oui, celui-ci, il a fait cela. » Enfin, c'était là aussi un travail de mémoire, si j'ose dire, extrêmement intéressant que d'aller rechercher l'ensemble de ces noms-là. Et c'est important qu'ils soient dans les fondations du Théâtre du Jura.
Alors, tout reste à construire ici, mais ce chantier, c'est aussi le symbole du partenariat entre le public et le privé. Cette alliance qui a permis non seulement de construire ce futur complexe immobilier, mais aussi cette infrastructure culturelle, les milieux financiers, économiques ne sont pas toujours forcément amis, mais ici, ils ont su trouver un terrain d'entente.
Oui, et faites bien de le rappeler, effectivement, ce partenariat public-privé, à l'époque, le gouvernement jurassien, s'il l'a passé par ce biais-là, c'était le moyen de réaliser cela, parce que tout seul, lancer un tel projet eût été impossible. Par contre, en alliant les forces tant d'entreprises privées que d'administration et de politique publique, il était possible de le réaliser. C'était un pari complètement fou, mais qui a permis en fait de réaliser cet énorme projet important pour les jurassiennes et les jurassiens. Et l'économie jurassienne aussi, c'est quand même 90 millions d'investissements.
Michel Tens, merci d'avoir été en direct dans ce journal. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 ans à peu près pour l'inauguration de ce théâtre du Jura. Merci, bonne journée.
Merci à vous, à très bientôt dans 24 mois.
Merci à vous, François. L'investissement pour le théâtre du Jura se monte à 24 millions de francs. La médaille d'or de la chanson se cherche des candidats. La manifestation connaîtra sa 53e édition au mois d'avril prochain. Tous les chanteurs et chanteuses de la francophonie sont invités à déposer leur candidature jusqu'au 30 novembre. Passé ce délai, 14 artistes seront sélectionnés pour le concours qui aura lieu les 24 et 25 avril à la Halle Cantine de Seignelégier. Et vous retrouverez toutes les informations ainsi qu'un formulaire d'inscription en lien sur notre site internet. Un don du sang est organisé aujourd'hui à Vic. Il aura lieu de 16h30 à 19h30. C'est au centre communal. Les écrans attirent jusqu'à rendre dépendant. Une conférence est donnée ce soir à 20h au campus Stratégie à Delémont. Elle s'intitule « Les jeunes face aux écrans, quel enjeu pour leur santé ?» La directrice de la fondation O2, Chloé Sass, et le directeur d'Addiction Jura, Stéphane Bonvin, étaient les invités de la matinale. Les parents sont souvent inquiets, comme l'explique Stéphane Bonvin.
Il y a une méconnaissance de ce que font les jeunes sur les écrans et des risques également qui sont portés par rapport à ça.
Est-ce que Stéphane Bonvin, il ne s'inquiéterait pas un peu trop les parents ?
Mais une inquiétude est toujours bonne à partir du moment où on maintient le dialogue. Donc ça veut dire que l'élément extrêmement important, c'est qu'on puisse questionner l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi il joue, quels sont les enjeux, quels sont les risques aussi par rapport à ça. Et ce dialogue est extrêmement important parce que ça permet d'avoir une connaissance et un intérêt par rapport aux jeunes.
On a aussi, j'ai entendu parler d'applications qui permettent de voir le nombre de temps qu'on passe sur certains sites, par exemple sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'utile selon vous ?
Alors là, justement, on est dans l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donc s'intéresser à ce que regarde son enfant, son ado, et aussi le contrôler, mettre ce cadre là aussi. Donc, on a des applications qui permettent de voir le temps d'écran, de bloquer aussi certaines applications sur lesquelles on part. Nous aussi, quand on est dedans, on a de la peine parfois à s'arrêter. Donc ça permet aussi de mettre cette limite parentale et puis de le négocier aussi avec son jeune.
Oui, Chloé Sass et Stéphane Bonvin étaient les invités de Léandre Béret dans la matinale. La conférence « Les jeunes face aux écrans, quels enjeux pour leur santé ?» a lieu ce soir à 20h au campus Stratégie à Delémont. Détails et interviews complètes sur notre site internet. Et c'est un autre sujet de société. La ville de Porrentruy propose une soirée à ses citoyens autour de la thématique du zéro déchet. Deux conférences sont au programme, en présence notamment de Kimberly Mess de l'association Ecopark et Nelson Ferreira de Zero Waste Switzerland. C'est ce soir à 19h à l'aula de l'école de l'Oiselier. Cet événement se fait en coopération avec la ville de Delémont où ces conférences auront aussi lieu. Ce sera le 24 octobre. On change complètement de sujet avec cette autre présentation consacrée à celui qui reste à ce jour le seul évêque de Bâle originaire du Jura. Eugène Lachat fait l'objet d'une conférence organisée par Jura Pastoral ce soir à Delémont. Monseigneur Eugène Lachat, victime du Kulturkampf, c'est à 20h au centre Saint-François. La Confédération délie les cordons de sa bourse à l'intention des cantons. Berne subventionnera les contrôles de l'obligation d'annoncer les postes vacants. Souvenez-vous, depuis l'été 2018, pour mettre en application l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse et donner la préférence indigène, les employeurs doivent annoncer leurs postes vacants aux ORP durant 5 jours. Une mesure qui concerne les professions frappées d'un taux de chômage de 8%, taux qui sera abaissé à 5% en 2020. Il faut évidemment vérifier que les entreprises appliquent cette exigence. Ce matin, une large majorité du Conseil national a admis que la Confédération devait participer financièrement au contrôle. Cela pourrait coûter entre 450 et 600 000 francs par an à la Caisse fédérale. Pourquoi un soutien fédéral à une tâche qui reviendrait normalement au canton ? Le conseiller national PDC tessinois Marco Romano.
Ce sont des contrôles liés à une loi fédérale et c'est juste que la Confédération, dans une façon subsidiaire, s'engage pour soutenir les cantons. Chaque canton va s'organiser dans une façon différente. Il y a des réalités où il faut contrôler quelque chose en plus. Et là, c'est important de voir la Confédération qui aide les cantons, qui donne presque la moitié des moyennes.
On va contrôler environ 3% des offres d'emploi qui seront faites. Est-ce qu'on s'assurera que les entreprises elles jouent bien le jeu ?
Je crois qu'il ne faut pas avoir une approche nationale, mais une approche cantonale. Il y aura des cantons, je pense, dans mon canton, le canton du Tessin, où c'est sûr qu'il faut contrôler quelque chose en plus. Et là, on s'attend à un engagement aussi de la Confédération plus fort, peut-être dans des autres cantons moins exposés, surtout à la frontière, moins exposés à la présence des travailleurs étrangers. Peut-être la densité des contrôles doit être moins intensive.
Marco Romano répondait à Serge Jubin. Le Conseil des États avait déjà adopté le soutien fédéral. Toujours frustré de l'application discutable de son initiative contre l'immigration de masse, l'UDC s'est opposé au subventionnement fédéral des cantons pour contrôler l'obligation d'annoncer les postes de travail vacants. Égalité parfaite en Israël après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Les partis du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son rival Benny Gantz obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 du Parlement israélien. Les élections législatives se sont déroulées hier. Les deux partis sont dans l'incapacité de former un gouvernement après plus de 90% du dépouillement. Ils ne parviennent pas à franchir le seuil de 61 députés pour obtenir une majorité aux législatives. Amazon s'attaque à un très gros morceau. Le géant américain va adapter Le Seigneur des Anneaux en série. Il déboursera près d'1 milliard de francs pour cette saga fantastique. Le tournage commencera dans les prochains mois en Nouvelle-Zélande. Plusieurs saisons sont prévues pour porter au petit écran l'univers créé dans les années 30 par l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien.
RFJ, les 12h26.
Sport. L'Ovalie aura les yeux rivés sur l'Asie dès la fin de la semaine. La Coupe du monde de rugby s'ouvre vendredi au Japon. 20 nations seront en lice pour décrocher le titre planétaire le 2 novembre et succéder à la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks font à nouveau partie des grands favoris de cette édition, tout comme l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Mais quelques outsiders se dégagent aussi, selon deux joueurs de l'Union Jura Rugby, le pilier Yannick Noirjean et le talonneur Christopher Carrière.
J'imagine bien l'Argentine qui peut aller loin pour une fois. Ils ont vraiment une bonne équipe cette année. Le Pays de Galles, ils ne sont jamais allés très loin. Ils ont une très forte équipe. Ils sont outsiders.
Allez, après, c'est là où je voulais en venir. Moi, je pense que la France a tout à y gagner. Elle a des jeunes très prometteurs. S'ils les font jouer et qu'ils ne se basent pas sur les piliers de l'équipe, il y a des jeunes qui gagnent à être connus. Et je pense qu'un petit renouveau dans l'équipe de France, ça peut faire quelque chose.
À chaque fois, c'est vrai que la France est... Et outsiders, ils n'ont vraiment pas l'équipe pour y aller loin, mais à chaque fois, c'est une compétition qui leur réussit.
Comment ça se fait ?
On sait que les pays de l'hémisphère sud sortent du Tri-Nations, ils sont aussi plus fatigués en général à la Coupe du Monde. C'est des débuts de saison pour toute l'Europe, donc on sait que sur ce type de compétition, l'Europe est plus... est meilleure.
Qu'est-ce qu'il faut à l'équipe de France pour qu'elle arrive en finale et peut-être qu'elle gagne un titre de Coupe du Monde ?
Du renouveau et des jeunes, laissez jouer les jeunes.
De l'abnégation, de la volonté, tout ce qui fait que de jouer simple quoi. On dit toujours, même à notre niveau, on dit voilà, jouer simple c'est le plus important, voilà, on sait, c'est faire des passes en arrière, faire des roulements. Le rugby c'est un sport simple, si on connaît les bases, ben, finalement on réussit. Après il faut de l'envie.
Christopher Carrière et Yannick Noirjean au micro de Léandre Béret. La Coupe du Monde de rugby, c'est dès vendredi et jusqu'au 2 novembre au Japon. Le match d'ouverture mettra aux prises le pays hôte à la Russie. Le FC Basse-Cour veut regarder vers le haut. Il peut se hisser ce soir dans la première moitié du classement de Première Ligue de football. Les jaunes et noirs vont rendre visite à Baden à 20h. Ils restent sur 2 victoires consécutives en championnat. La passe de 3 leur permettrait de grimper à la 7e place de la hiérarchie et de prendre 6 longueurs d'avance sur la barre. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.
Une bise faible à modérée soufflait en pleine et sur les hauteurs, ce qui explique la baisse des températures. Températures qui sont tout de même agréables pour la saison, oscillant en ce moment entre 17 et 19 degrés. Les conditions resteront ensoleillées jusqu'à dimanche. Il se peut que ce jour-là, les averses fassent leur retour, mais succinctement. Du côté des températures, eh bien, elles seront pleines de variations, puisqu'elles oscilleront au fil des jours entre 15 et 24 degrés pour le maximum qui sera à dimanche.